Matière à penser, Patrick Boucheron.
Bonsoir, première émission de la semaine et première émission de la saison. Et aujourd'hui, on commence avec la véhémence. La véhémence, pourquoi ce premier thème? Pourquoi s'intéresser à une histoire des emportements, des éclats de voix, de la colère? Eh bien, comme toujours avec l'histoire, pour prendre des nouvelles de nous, pour essayer de poser un diagnostic sur ce que nous sommes, sur où nous sommes. Que dit-on des formes actuelles du débat public? On dit à la fois, on peut plus rien dire, et pourquoi tant de haine? Alors, toute cette semaine, nous allons nous demander d'où vient ce sentiment de dégradation haineuse de la parole publique et comment ce durcissement s'accompagne peut-être paradoxalement d'un rétrécissement de l'espace de discussion. Mais nous allons le faire de manière calme, de manière positive, surtout pas en déplorant un art perdu de la conversation. Nous allons tenter de comprendre comment ouvrir la voie, VOX, pour reprendre le titre du documentaire d'Amandine Gay. Et pour cela, j'ai ce qu'il vous faut. C'est Mathieu Pot-Bonneville. Bonsoir Mathieu Pot-Bonneville.
Bonsoir Patrick Boucheron.
Mathieu Pot-Bonneville, vous êtes maître de conférences en philosophie à l'ENS de Lyon. Vous êtes cofondateur de la revue Vacarme en 1997. Vous avez présidé le Collège international de philosophie de 2010 à 2013. Et l'on pourrait dire que vous faites philosophie de tout bois.
Hein, c'est ça. C'est à peu près ça.
Avec des séries, avec des images, avec tout ce qui est bon pour faire la fête avec la pensée. D'ailleurs, vous avez coordonné, lorsque vous dirigiez le département idées et savoir de l'Institut français, pendant plusieurs années, la nuit des idées, qui était en fait une fête de la pensée.
Oui, l'idée c'était d'ouvrir des alors peut-être moins des voix que des espaces où des voix puissent se faire entendre et de trouver des moyens, des formats de rendre l'exercice de la pensée, l'exercice de la conversation, l'exercice de la réflexion aussi invitant que possible, aussi désirable que possible, quitte à déplacer le temps de son exercice et à le situer la nuit plutôt que le jour, hein, quitte à réfléchir à des heures indues. Et ce qui est indu est toujours beaucoup plus désirable.
Oui. Parmi vos derniers livres, on peut citer « Recommencer » chez Verdier en 2018. Et vous allez publier avec Marie Connet chez Stock « Voir venir, écrire l'hospitalité ». Vous êtes actuellement directeur du développement culturel du Centre Georges Pompidou à Paris. Là aussi, il s'agit au fond de faire vivre le débat, d'organiser des scènes pour
le débat. Oui, il s'agit d'organiser des scènes pour le débat. Il s'agit d'inventer aussi des intersections ou des interconnexions entre des disciplines diverses. Le Centre Pompidou, c'est un drôle d'endroit parce que c'est un endroit qui a été voulu comme un rassemblement. Comme un rassemblement de manière d'ailleurs peu hiérarchique de différentes disciplines, de différents modes de création et d'expression. Et puis charge à ceux qui le font vivre et charge à ceux qui le fréquentent d'inventer la façon dont les cinémas, les spectacles vivants, les arts plastiques, les collections d'un des plus grands musées du monde, la parole, tout ça peut coexister. Et au fond, essayer de travailler sur le régime de cette coexistence, c'est pas étranger, sans oui. doute, à la façon de faire coexister dans une société des individus, des groupes, de telle sorte qu'ils puissent se parler. Je trouve que entre l'exercice qui consiste à faire se parler des disciplines ou des savoirs et l'exercice qui consiste à rendre possible une parole commune, il y a des affinités, il y a des liens, et c'est ce que je m'occupe avec beaucoup de passion à faire au Centre Pompidou.
Oui, c'est ce à quoi vous vous affairez, Mathieu Pot-Bonneville, mais sans idéaliser une sorte d'espace rationnel de la discussion de l'espace public où tout serait feutré, organisé, conversationnel. Au fond, c'est ça le risque de notre débat. On va se poser la question des formes actuelles du débat. On a quand même vaguement le sentiment que ça s'énerve, que ça se dégrade ou que ça s'étrécit. Et on n'a pas envie d'une déploration.
Non, parce que la déploration porte à regretter et du coup à imaginer soit un temps où les choses auraient été plus claires et plus calmes, soit un espace où des règles communes seraient admises, au fond, comme quand on entre dans une salle de classe et où le règlement de l'établissement est affiché au mur, des règles qui seraient communes à tous et que chacun s'emploierait à respecter. Or, la nostalgie de ce point de vue-là ne me paraît pas de saison. Il n'est pas sûr que l'époque de la, où la presse d'opinion était la plus virulente était beaucoup plus calme que la nôtre. Je crois qu'il ne faut pas idéaliser de ce point de vue-là le passé. Mais je ne suis pas historien, je vous le laisse. Je vous la laisse, cette question-là.
On le prendra.
Et il ne faut pas non plus imaginer que les règles de la parole commune, que les règles du débat public puissent être de droit soustraites au débat lui-même. Je veux dire que la négociation autour de ce qui peut se dire ou pas, et avec qui, la fixation des frontières de l'expression et des façons de s'entendre sont eux-mêmes des éléments de discussion. Et la conflictualité de ce point de vue-là, elle est inscrite dans le jeu. Tout le problème étant de faire en sorte que cette conflictualité-là, elle soit féconde, et elle ne soit pas haineuse. Mais au fond, quand on regrette, je crois que c'est une première précaution à prendre, quand on aborde ce type de sujet, c'est un sujet extrêmement délicat, quand on regrette que le doux temps de la parole apaisée, il faut toujours veiller à se demander si on n'est pas en train de regretter une forme d'entre-soi. Alors d'entre-soi qui, je ne sais pas, mais d'entre-soi, puisque au fond ça n'est jamais que dans les groupes fermés, hein, les groupes fermés, y compris les groupes fermés d'universitaires ou les groupes fermés de la parole savante, ça n'est jamais que dans les groupes fermés que les règles sont transparentes et non problématiques. Sitôt qu'on s'ouvre,
et c'est précisément cette ouverture à des contre-public, comme le dirait Éric Fassin, c'est qui d'une certaine manière rendent, au fond, élargissent et compliquent le rapport au débat. Et c'est pour ça qu'au fond, on a choisi avec vous, Mathieu Pottebonneville, de partir de la véhémence, de partir de cette forme qui est d'emblée virulente la discussion, pour essayer de voir en quoi, effectivement, pour prendre des nouvelles de cette véhémence, voir si elle ne se dégrade pas en clash télévisuel. J'en parle à dessein parce que au TNB, à Rennes, vous aviez donné une performance. C'est un peu dans votre genre, en fait. Vous cherchez des scènes, mais donc, d'une certaine manière, ça a à voir avec l'adresse, on va y revenir.
Je le confesse, oui. Hein,
une performance sur l'archéologie de la véhémence, c'était le titre, je vous l'emprunte cette semaine. Et au fond, il s'agissait de partir à la recherche de nos souvenirs et de nos souvenirs télévisuels. Vous pouvez nous raconter ça ?
Oui, bien sûr. J'étais parti de... Ce sont des questions qui m'agitent depuis un moment. Et j'étais parti, au fond, d'une forme d'accablement devant ce qu'on pourrait appeler l'industrialisation du clash. Quelqu'un comme Christian Salmon a bien théorisé la façon dont la parole politique s'est rangée sous cette bannière-là, est devenue parole de clash, mais on pourrait parler de la façon dont une certaine télévision ou les réseaux sociaux produisent du clash de façon véritablement mécanique, enfin méthodique. Bon. Et j'étais parti de là, de cette déploration-là, en me demandant au fond, depuis combien de temps est-ce que cela dure et depuis combien de temps est-ce que nous n'y prêtons même plus attention ? Quand est-ce que la parole virulente, à la télévision par exemple, a cessé de faire événement, de faire effraction, pour devenir simplement un argument de renforcement de ce qu'on appelle les taux d'engagement sur les réseaux sociaux.
Oui. Ce qui fait que même si on n'a pas la télévision, de toute façon, ça nous arrive.
Oui, absolument. Oui, je n'ai jamais, pour ma part, regardé, je l'avoue, l'émission On n'est pas couché autrement que par bribes et morceaux, mais ces bribes et morceaux se me sont obligément fournis puisque le service après-vente de cette émission consiste à poster le lendemain les meilleures séquences, c'est-à-dire les moments où on s'engueule.
Et si vous le recevez pas directement, vous le recevrez par ceux qui s'en indignent.
Tout à fait. dans une forme comme ça de redoublement, parce que l'indignation est aussi un vecteur d'engagement et que ça porte les gens à poster, et au fond tout le monde y est gagnant, à part peut-être le débat lui-même. Donc j'étais parti de cette question-là, quand est-ce que la parole véhémente a cessé de faire effraction pour devenir l'ordinaire de nos échanges ou de nos interactions? Et puis, j'avais commencé par remonter assez loin,
oui.
Par remonter assez loin jusqu'à ce mot de véhémence, mot que on trouve, enfin qui est la traduction d'un très vieux mot de grec, hein, qu'on trouve dans un traité de rhétorique dû à Démétrios de Phalère, qui dit au fond, parmi les styles que l'orateur peut emprunter, il y a un style qu'il appelle le style deinos, le style véhément. Et ce style, il se caractérise par le fait que l'orateur lâche la bride au discours. C'est-à-dire que l'orateur cesse de respecter les règles de la parole efficace, hein, prend le risque de véritablement de lâcher la bride, enfin de se risquer dans une parole qui ne soit plus maîtrisée, hein, parce que eh bien la situation l'exige et parce qu'il faut devenir, ce sont les mots de ce rhéteur antique, sombre et laconique.
Oui, parce que c'est une alliance entre l'obscurité, le laconisme et la puissance. C'est une manière quand même de la puissance. C'est une manière quand même de d'une certaine manière de se laisser emporter par la parole, d'intégrer la colère dans la parole même, de la dire, et de gagner quelque chose dans ce dire.
C'est ça. C'est-à-dire que c'est faire le pari que, au fond, transgresser les règles de la parole pourra emporter l'adhésion, hein, c'est toujours le but de la rhétorique, de ceux qui vous écoutent, hein, de ceux de qui on tâche de se faire entendre. Donc ce concept, il m'a intéressé parce que, au fond, la question de la véhémence, c'est toujours une double question.
Oui.
C'est la question du moment où on renonce aux règles de la bienséance, aux règles de la politesse, mais on y renonce parce qu'on essaie de faire entendre quelque chose. C'est-à-dire que dans le moment même où on renonce à se faire entendre de la façon ordinaire, on cherche à faire entendre qu'on y renonce. Bon, c'est-à-dire qu'il y a un mélange de refus et de refus des règles de la parole et de ruse ou de stratégie, hein, consistant à dire bien je vais parler de telle sorte que vous entendiez la violence que me fait ce contexte de parole et que nous puissions partager cela.
Et pourquoi c'était important d'ailleurs que vous fassiez cette performance dans un théâtre? C'était, je crois, en avril 2018, et je profite aussi pour dire aux auditeurs que vous êtes un utilisateur d'Internet et des réseaux sociaux de manière modérée, on va peut-être y revenir, et que dans la toile vous avez creusé une sorte de terrier qui s'appelle le rabbit hole, dans lequel vous postez, justement, vous archivez vos textes et aussi vos interventions. On peut la retrouver, c'était au TNB, donc le 6 avril 2018, et c'était à partir justement d'images. La première que vous aviez fait voir ce soir-là, c'était la sortie des usines Vonder.
Oui, parce que, alors si on revient maintenant des concepts que l'histoire de la philosophie ou l'histoire de la rhétorique peuvent nous fournir pour penser cette question, de l'effraction efficace. Si on revient vers un passé un peu moins ancien, au fond, cette question-là, c'est la question de l'immédiat après 68.
Oui.
Et c'est la question de l'immédiat après 68 pour deux raisons. D'abord parce que en 1968, les théoriciens qui ont parlé de 68 juste après les événements de mai ont dit, au fond, ce qui s'est passé, c'est d'abord une prise de parole. C'était une façon de prendre la parole comme on a pris la Bastille. C'est une formule de Michel de Certeau.
Ou de Roland Barthes.
Ou de Roland Barthes. Oui, les deux l'utilisent, cette métaphore ou ce bon mot. Mais c'est bien l'idée qu'il se passait quelque chose dans le fait de prendre la parole et arracher la parole au pouvoir qui la retire. Donc, et de cet arrachement, le film sur la reprise aux usines Vonder qu'on connaît, hein,
et qui est matricielle. C'est vraiment la matrice en fait de cette.
Absolument,
cette véhémence,
absolument. C'est l'icône, hein, c'est cette femme, cette ouvrière qui refuse de reprendre le travail, qui le dit, qui le hurle à la porte de l'usine. C'est vraiment le symbole pour cette époque-là de cette effraction dans l'ordre du discours. Et ce qui est intéressant, c'est que tout au long des années 70, tout au long de l'immédiate après 68, on va voir cette question-là. Comment faire effraction dans la parole, se déployer sur deux scènes qui peuvent sembler a priori très différentes, qui sont les scènes, l'une part la scène de la pensée, on la retrouve cette question-là chez Michel de Certeau, j'en parlais, on la retrouve chez Michel Foucault, on la retrouve chez Hélène Cixous, oui. On la retrouve chez Pierre Bourdieu, et puis à la télévision, puisque les années 70 sont ponctuées d'interventions, d'irruptions, d'effractions.
Maurice Clavel à Daniel Balavoine.
Absolument, Maurice Clavel à Daniel Balavoine, en passant par Delphine Seyrig, hein, dont la sortie dans une émission à propos de l'avortement est demeurée fameuse. C'est-à-dire que s'inventait à l'époque, et c'est pour ça que c'est intéressant au regard du présent, hein, s'inventait à l'époque ce dont notre présent nous offre une forme... non seulement abattardi, mais fondamentalement neutralisé, des formes d'intervention dans l'espace public télévisuel qui cherchaient la faille, qui cherchaient à dire, ben voilà, cet espace public-là qui nous est offert, comment est-ce qu'une femme peut y intervenir? Comment est-ce qu'un jeune peut y intervenir? Comment est-ce qu'un immigré peut y intervenir? Oui. Une scène extraordinaire avec des jeunes de banlieue et Daniel Bilalian dans les années 80 dans la même manière. Bon, cette question-là de savoir comment la véhémence peut n'être pas simplement ce petit jeu d'un étrange entre-soi où on joue à se faire mal parce que ça fait de l'audience, mais véritablement quelque chose comme un acte politique.
Et c'est là où c'était important de le dire au théâtre, c'est parce que ce qui aussi s'impose, c'est une sorte de répertoire, y compris gestuel, de la parole indocile. C'est-à-dire que dans ces années 80, se met en place une scène de parole dont on, quand même, si on vous entend bien, Mathieu Pont-Bonneville, c'est le moment où à ce moment-là, effectivement, tout est rassemblé, représenté dans une véhémence active, dont le clash télévisuel est quand même la dégradation.
Absolument. C'est-à-dire qu'il faudrait, je dis qu'il faudrait, mais en réalité c'est le cas, un certain nombre de compagnies théâtrales, de dramaturges se sont emparés de scènes, je pense au collectif Foucault 71, qui pendant plusieurs années a travaillé sur la scène de la conférence de presse, sur la scène de l'interview télévisée de ces années, hein, notamment autour des interventions de Michel Foucault, parce que s'invente à l'époque un répertoire de gestes, un répertoire de tactiques aussi. Moi j'aime beaucoup, je parlais de cette archive de Delphine Seyrig à la télévision, c'est une archive passionnante parce que elle a beaucoup tourné lors de du dernier 8 mars, journée de droits des femmes. On a retrouvé sur internet cette scène et on voit Delphine Seyrig cantonnée dans un petit studio à part. C'est-à-dire que les interviewés sérieux, les intervenants sérieux sont autour de la grande table et puis
pour parler de l'avortement,
en duplex,
ce ne sont que des hommes.
Ce ne sont que des hommes, quasiment. Et puis en duplex, depuis un petit studio, Delphine Seyrig attend. Et on sent bien qu'elle a dans ce dispositif-là le rôle de la caution exotique. Bon. Et cette relégation à l'écart, elle en fait un observatoire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on lui donne la parole, elle va se mettre, depuis son loin, à commenter le débat, son déroulement, la manière dont ce déroulement est d'emblée verrouillé, et pourquoi ça n'est pas acceptable. Et comme elle est en duplex, on ne peut pas lui couper la parole. Et comme c'est en direct, on ne peut pas lui couper la parole. Il y a une façon comme ça de recherche des verrous du débat et de la façon de les renverser, de les faire jouer à son profit, qui est absolument passionnante. Ce sont des années de grande créativité intellectuelle et télévisuelle sur l'art et la manière de faire effraction dans la parole.
Et ça nous intéresse directement aujourd'hui, puisque effectivement cette déploration de laquelle on tente de se défaire, Mathieu Pot-Bonneville, elle a aussi à voir avec cet entre-soi philosophique et social dont vous parliez, et ce refus de voir l'effraction dans l'espace public de ces contre-publics, de tous ceux qui veulent évidemment faire entendre leur voix, donner de la voix. Et c'est pour cela que, au fond, depuis si longtemps, vous pensez d'après Foucault, pour reprendre le titre du livre que vous avez signé avec Philippe Artière, le sous-titre « Geste, lutte, programme », c'était en 2007 aux Prairies Ordinaires, dit bien justement la portée. Je vous présentais tout à l'heure comme un spécialiste du débat public, mais puisque vous êtes en même temps spécialiste de Michel Foucault, vous lui avez consacré votre thèse, parue en 2004 au PUF sous le titre « Michel Foucault, l'inquiétude de l'histoire », eh bien ça fait de vous un spécialiste inquiet du débat. Parce que si on lit d'après Foucault, eh bien on ne peut qu'être toujours déstabilisé, toujours inconfortable par rapport à cette idée. Mais qu'y a-t-il donc de si périlleux dans le fait que les gens parlent ? Où donc est le danger ? On aura reconnu évidemment une des phrases les plus célèbres de l'ordre du discours. Où est le danger ?
C'est ça. Il y a cette idée que, pour reprendre une autre phrase lapidaire de Foucault, tout est dangereux.
Oui.
Cette idée-là est une idée, je trouve, assez passionnante parce que...
C'est votre idée aussi. Vous êtes un philosophe de cette peur-là, de ce danger.
Oui, absolument. Je veux dire que pour autant, les dangers n'ont pas forcément à être systématiquement contournés, évités. Et je pense que l'exercice de la pensée ne doit pas être rassurant.
Je me permets de citer les dernières lignes, ou presque, de Michel Foucault, l'inquiétude de l'histoire. Son œuvre est un appel conséquent, mais sans promesse, au travail de la pensée. Se détourner de l'inquiétude pour viser les périls, puis s'inquiéter encore, recommencer. Et quand on lit Recommencer, justement, le livre que vous avez une douzaine d'années plus tard écrit, eh ben, on comprend que recommencer, c'est s'inquiéter en pire, donc en mieux. Donc voilà, voilà où on en est. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'inquiéter de la dégradation de l'espace public si on ne prend pas en compte le danger même de ce que c'est que s'adresser à un public avec la parole, c'est-à-dire lui faire violence.
Alors, je vous remercie, Patrick Boucheron, d'avoir cité les dernières lignes de ce livre. Je vais, du coup, pouvoir me livrer à ma propre exégèse. Donc ça, en matière de débat public, c'est formidable, parce que quand on se commente soi-même, on a peu de chances d'être contredit.
Vous n'aurez pas besoin de dire « taisez-vous ».
Voilà, exactement. Il se trouve que... Je vais m'appuyer pour le coup sur cette formule que j'avais utilisée, se détourner de l'inquiétude pour viser les périls, parce que je trouve que, dans le sujet dont nous parlons, c'est-à-dire l'état du débat public, c'est un peu ce qu'il faudrait faire. Passer de l'inquiétude globale, vague, à l'identification d'une série de dangers précis, qui n'ont ni la même extension, ni la même origine, et qu'il convient d'abord de différencier. Foucault disait que le rôle d'un intellectuel est de produire des diagnostics, mais les diagnostics doivent être toujours différentiels. Mmh. Donc, ce qui est frappant aujourd'hui, c'est que, en termes d'inquiétude globale, il y a une étrange inquiétude partagée à propos de l'état du débat public. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a des problèmes, mais
personne, ça reste vague.
Personne n'est d'accord pour dire lesquels.
Oui.
Chacun a son idée de ce point de vue-là. Je trouve qu'il ne faut pas, qu'il faudrait commencer par distinguer. C'est une chose de reconnaître que les discours de haine croissent et embellissent, que certains verrous ont sauté du côté de l'injure, de l'insulte ou de la menace, on va dire, ce qui complique évidemment l'exercice de la parole. C'est autre chose de noter qu'un certain nombre de canons ce qui peut mettre d'accord sur la valeur d'un argument, par exemple, ou dans les normes de vérité qu'on peut convoquer pour dire ceci est recevable, ceci ne l'est pas, qu'un certain nombre de canons sont plus problématiques qu'auparavant, C'est une troisième chose de noter que, disons pour aller vite, les minorités, au sens deleuzien du terme, c'est-à-dire certainement pas les minorités numériques,
hein, oui.
Les minorités sont les plus nombreuses dans le monde, mais ceux qu'on n'entend pas, sont plus attentifs, plus vigilants qu'auparavant sur la façon dont ils se trouvent nommés par d'autres, désignés par d'autres, ou dénigrés par d'autres. Bon. Ce sont là des phénomènes différents. La facilité consisterait à se dire, à dire, et on le dit beaucoup, qu'on ne peut plus rien dire, puisque tous ceux qu'on n'entend pas se plaignent, injurient les autres et condamnent tout le monde à un relativisme généralisé. Donc il faut commencer par défaire ce paquet-là, et la lecture de Foucault de ce point de vue-là peut y aider, parce que ce qu'on apprend en lisant Michel Foucault, c'est à démêler, serrer les problèmes, distinguer le fait que dans une situation, dans une conjoncture, il y a toujours un enchevêtrement de lignes différentes et qu'il convient d'abord de reconnaître et de distinguer.
Se détourner de l'inquiétude pour viser les périls. On comprend mieux, au fond, votre attitude, Mathieu Pot-Bonneville, et c'est ce qu'on va appeler dans la deuxième partie de cette émission, l'attitude critique.
Il nous manque, c'est du vent, il nous balade, il nous vend que des salades, y'en a marre des boniments.
Il nous manque, c'est du vent, il nous balade, il nous vend que des salades, y'en a marre des boniments.
Il nous manque.
Regardez son nez s'allonge, il nous ment effrontément.
Il nous manque.
S'il a l'air aussi sincère, c'est parce qu'il ment franchement.
Il nous manque.
C'est rien que du blablabla, il a pas un seul argument.
Il nous manque.
C'est à des fins bien précises qu'il nous parle vaguement.
Il nous manque.
On fera pas de concessions, y aura pas d'arrangement.
Il nous manque.
Il nous promet des embauches, y aura des licenciements.
Il nous manque.
Pas question qu'on lui laisse faire ça impunément.
Il nous manque.
Et méfions-nous des reculades quand il parle avancement.
Il nous manque.
Ce qu'il veut, c'est nous casser purement et simplement.
Il nous manque.
On va lui répondre merde poliment mais fermement.
Il nous manque.
Il y a trop des belles paroles, on veut de vrais changements.
Il nous manque.
Pas de plan sur la comète, un plan de recrutement.
Il nous manque.
Ce qu'on veut, ce qu'on exige, c'est de vrais engagements.
Il nous manque.
Il nous parle d'arbitrage mais vous avez vu comment.
Il nous manque.
Qui c'est qui choisit l'arbitre? C'est lui arbitrairement.
Il nous manque.
Plus il parle, plus il ment. Il se croit au parlement.
Il nous manque.
Écoutez ces jérémiades, il en fait tout un roman.
Il nous manque.
Mon corps se sert à ses serments et à tous ses serments.
Il nous manque.
Il nous raconte sa vie, il veut nous prendre aux sentiments.
Il nous manque.
On s'en fout de son histoire qu'il la raconte à sa maman.
Il nous manque.
S'il croit qu'on va le croire et gober ça aveuglément.
Il nous manque.
Il se met le doigt dans l'œil qui se le met au fondement.
France Culture, matière à penser, Patrick Boucheron.
En compagnie de Mathieu Pot-Bonneville pour parler de la véhémence et avec les Fabulous Troubadours. C'est tout nous, hein, sur France Culture.
J'adore ce morceau. Parce
2003.
Oui, mais c'est pas mal parce qu'en même temps, par rapport à ce qui inquiète beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire la défiance généralisée, le sentiment que le lien est rompu entre les élites et le peuple, que le mensonge, le soupçon de mensonge est général, on s'aperçoit que le soupçon de mensonge ne cloue pas le bec de ceux qui l'expriment et qu'ils peuvent même y trouver une forme de matière à joute oratoire absolument délicieuse et absolument réjouissante. Donc cette manière de faire proliférer la joute et la parole dans le soupçon même de celui qui nous ment.
On se demande bien qui ça pouvait être d'ailleurs en 2003.
Oui, je ne sais pas du tout. Mais ça c'est mon sens historique voilà. Qui est clairement défaillant à cet égard.
En tout cas, le morceau dure 11 minutes parce que c'est une joute oratoire et parce que d'ailleurs ça prouve, je sais que c'est un sujet qui vous est cher aussi, Mathieu Pot-Bonneville, que la question de l'éloquence, ça reste une question d'actualité et pas une vieille question pour savants. C'est aussi une question pour aujourd'hui, pour la jeunesse d'ailleurs.
Oui, absolument. C'est-à-dire que la question des manières de parler, des manières de s'adresser aux autres, des formes qu'on peut y mettre, de la façon dont la parole peut se faire entendre ou non, est une question qui me paraît à la fois extrêmement contemporaine et actuelle, et en même temps une question qui porte à considérer autrement l'histoire même de la philosophie. La philosophie, c'est finalement relativement peu intéressé à la parole en tant qu'elle est adresser. La philosophie se demande ce dont on parle, bon, ce dont il est parlé, et quelles sont les choses qui sont les références de nos énoncés. Elle se demande, à partir de Nietzsche, qui parle. C'est la question, c'est le renversement nietzschéen de la question qu'est-ce que l'être, hein, c'est qui parle. Mais jusqu'à, d'une certaine façon, Michel Foucault, elle se demande relativement peu à qui elle parle. Oui. Elle se demande un peu, Descartes écrit le discours de la méthode en français pour s'adresser à tous, mais il écrit les méditations métaphysiques en latin pour s'adresser aux plus doctes. Donc la philosophie n'est pas ignorante de la question de l'adresse, de savoir s'adresser aux autres, mais parce qu'elle se veut un discours universel et en droit ouvert à tous, elle refoule d'une certaine façon ce problème-là. Et moi, je trouve que c'est une question qui est très intéressante et qui est très actuelle. Comment fait-on pour se faire entendre à ceux à qui l'on parle ?
C'est-à-dire pour parler à tous et à chacun, pour reprendre justement l'expression de Michel Foucault.
Absolument, pour parler à tous et à chacun, pour écrire, c'est une expression de Nietzsche, c'est le sous-titre du Zarathoustra, pour tous et pour personne, et ou pour prendre à partie tel ou tel, c'est aussi un geste de l'intervention philosophique, de prendre à partie tel ou tel dans une forme de, là encore, de véhémence bien pensée.
Voilà. C'est-à-dire qu'au-delà de la question de l'éclat de voix, ce qui nous intéresse, c'est l'adresse, ce que vous appelez, Mathieu Pot-Bonneville, l'adresse de la critique. C'est là-dessus que vous travaillez en philosophe. On peut lire, je le répète, sur votre site internet, les liens seront évidemment sur le site de Matière à penser, sur France Culture, certaines ébauches ou premiers résultats de cette enquête sur l'adresse de la critique.
Effectivement, cette question de l'adresse me paraît extrêmement intéressante, d'abord pour la philosophie elle-même. Je veux dire que le mot d'adresse en lui-même est intéressant en français, puisqu'il peut renvoyer à un discours qui est adressé et à un discours qui est adroit.
Oui. Bon.
Ce sont deux idées avec lesquelles la philosophie pourrait être mal à l'aise, puisqu'après tout, que le discours soit adressé, ça contrevient un peu à son ambition d'universalité, et que le discours soit adroit, ça la rapproche un peu de la rhétorique qui n'est pas son amie, dont elle n'a eu de cesse de se démarquer au fil de son histoire. Et pourtant, dès lors qu'on prétend produire un discours critique, la question de savoir à qui ce discours est adressé et la question de savoir comment, dans cette adresse, quel tour il va falloir emprunter pour que ce discours soit entendu, ce sont des questions absolument passionnantes.
Et inquiétantes, parce que c'est la question de la rectitude et de la ruse. C'est-à-dire que, évidemment, l'adresse de la critique, il doit aller droit, ne serait-ce que moralement, mais il emprunte des détours. Vous dites que si c'était du tennis, on mettrait de l'effet.
C'est ça, c'est la question de l'effet, ce qui est évidemment problématique, parce que l'effet est un concept de la rhétorique, voire de la sophistique. Donc le philosophe, celui qui s'installe, disons, dans la posture du philosophe ou du critique, il doit adopter simultanément deux attitudes. D'une part, s'il s'autorise à critiquer, c'est depuis une position de rectitude, de franc-parler, ce que Foucault appelait, ou ce mot que Foucault retrouvait dans la philosophie grecque, qui est le mot de parésia, le franc-parler, et au fond, pas de critique sans franchise. Mais la franchise, on sait aussi que c'est ce qui vous expose à n'être pas entendu, à n'être pas compris, à n'être pas reçu. Depuis Freud, on sait que dire franchement à l'analysant ce dont il souffre, ça ne sert pas à grand-chose. Il faudra sans doute attendre plusieurs années pour que l'analysant vous répète ce que vous lui avez dit et qu'il le prenne pour lui. Donc, cette double contrainte propre au discours philosophique d'avoir à être droit et à être entendu et à se donner les moyens de l'être, c'est quelque chose qui est extrêmement passionnant à penser et qui rejoint, on en parlait en première partie d'émission, la question de savoir comment dans le débat public on peut à la fois déroger aux règles de la parole commune, de la parole bienséante et finalement de la parole neutre, tout en faisant en sorte de ne pas être coincé dans la position, pour aller vite, du grincheux,
oui,
ou du râleur de service, ou de celui qui, comme disait Maurice Merleau-Ponty, rappelle que le monde tel qu'il est intolérable. Merleau-Ponty ajoute, on aime bien que cela soit dit pour l'honneur de l'humanité avant de retourner à ses affaires. Mmh. Voilà. Comment fabriquer une parole qui vous laisse durablement intranquille? Voilà une question pour les philosophes et voilà une question pour tous ceux qui essaient de changer quoi que ce soit à l'ordre existant.
Alors pour ne pas retourner à ses affaires, il faut avoir le courage de la vérité et Michel Foucault revient à plusieurs reprises et en particulier dans son dernier cours au Collège de France, le courage de la vérité, sur ce qu'il appelle la matrice, la scène matricielle de la parésia. On a parlé là d'une forme de scène matricielle cinématographique de la véhémence. Là c'est autre chose, c'est l'histoire effectivement d'un philosophe, Platon, d'un tyran, Denis, et puis de ceux qui l'observent.
Alors effectivement, c'est une scène qui passionne Foucault, où Platon, à la cour et à la table du tyran Denis, à Syracuse, se fait entreprendre par le tyran, qui lui dit « Mais finalement, pourquoi est-ce que tu es venu jusqu'ici? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fabriques? Qu'est-ce que tu cherches ?» Donc, on pourrait même dire « Qu'est-ce que tu me cherches ?» Et Platon lui répond « Je cherche un homme de bien. »
Punchline.
Voilà, je cherche un homme, exactement. Je cherche un homme de bien. Évidemment, ce « je cherche un homme de bien » sous-entend qu'il ne l'a pas trouvé. Et que donc, le tyran Denis n'est pas cet homme de bien.
Donc c'est tordu.
Donc c'est tordu, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que Foucault souligne combien, pour tous les commentateurs antiques, cette parole, c'est l'exemple même du franc-parler, c'est-à-dire d'un philosophe qui se met en danger, concrètement, qui encourt la colère du tyran, en lui disant son fait, ce qui est vrai, c'est exactement ce que fait le philosophe. Mais on pourrait noter aussi, Foucault ne le fait pas, et il y a là, à mon avis, un objet intéressant, que dans le moment même où Platon exerce son franc-parler, il s'arrête. Il ne dit pas « je cherche un homme de bien et je ne l'ai pas trouvé ». Je cherche un homme de bien et ce n'est pas toi. Je dis « je cherche un homme de bien ».
Et c'est le tyran, qui comprend et qui répond.
Qui doit tirer la conclusion lui-même. Alors, s'agit-il de la part de Platon d'une forme de prudence? S'agit-il d'une sorte de geste pédagogique laissant celui qui l'écoute sauter à la conclusion? Qu'est-ce qu'il en est de cette retenue? On parlait d'effet tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il en est de cette balle lobée dans l'exercice même du franc-parler? Et au fond, ça, c'est une question que je trouve philosophiquement intéressante.
Parce qu'elle met en jeu la question de l'adresse et qu'il y a des adresses emboîtées, parce que là, on dit, pour simplifier, Platon et Denis, mais en fait, c'est Dion qui raconte et que c'est plus tard qu'il l'écrit. Donc au fond, il y a les deux questions, c'est-à-dire à qui on parle et pour qui on parle.
Bien
pour
entendu.
Qui on parle.
Bien
on ne parle pas forcément pour celui à qui on s'adresse. Et parler pour quelqu'un ou pour des gens, ça peut être aussi parler à leur place. C'est l'étrange remarque de Foucault qui dit « j'ai écrit surveiller et punir pour les prisonniers » alors qu'il n'en parle jamais.
Oui, c'est effectivement un point tout à fait important. C'est certainement la retenue de Platon qui démultiplie l'effet de sa réplique et qui conduit les commentateurs à louer ce courage, au fond, la manière d'avoir laissé en blanc la conclusion de sa remarque. Cette manière-là va être comblée par la façon dont le public, dont les lecteurs, dont les disciples vont recevoir cette remarque même. Pour revenir à nos affaires aujourd'hui, je pense qu'il faut toujours tenir compte du fait que dans le jeu du débat, il y a celui qui parle, il y a celui qui l'interpelle, et il y a ceux qui forment le cercle autour des interlocuteurs, de ceux qui acclament ou qui se récrient dans cette scène-là. Je crois qu'il faut penser aussi, si on se demande ce qui arrive au débat public, il faut penser la manière dont chacun s'arrange plus ou moins bien avec cette position d'être en public, justement, avec cette manière d'être en public que les réseaux sociaux ont clairement, dont les réseaux sociaux forment la forme contemporaine, disons, cette manière de parler toujours pour, à l'attention d'eux, ou à la place d'eux, un groupe, le sien, qui va vous servir de cénacle.
Dont on cherche l'assentiment. Et donc, il ne s'agit pas, au fond, nous arrivons au terme de cette émission, Mathieu Pott-Bonneville, il ne s'agit pas de pacifier le débat public, ni même nécessairement de lui donner des règles, mais de comprendre, au fond, sa virulence fondamentale. Est-ce que vous pensez que les exemples de respect que nous donnons aux autres peuvent les inciter à l'effort d'en devenir dignes ? Mathieu Pott-Bonneville, c'est Emmanuel Kant dans Doctrine de la vertu. Les plus aguerris des auditeurs de France Culture l'ont bien sûr reconnu. C'est étonnant ce texte. Vous avez fait un article dans Libération en 2011 qui s'appelle Monsieur Ferry. Je pense qu'il s'agissait de Luc Ferry. J'en ai peur. Au lieu d'aller à Canal+, vous auriez dû relire Kant.
Oui, je crois qu'effectivement, l'exercice du respect est une chose absolument essentielle et réciproque. Chez Kant, le respect n'attend pas la réciprocité de l'autre pour s'imposer comme un devoir, soyons oui. clairs. Pour autant, moi je suis frappé de la manière dont aujourd'hui, un certain nombre de ceux qui exigent davantage de respect dans le débat public, qui soulignent combien ils ne peuvent plus rien dire, ils le disent beaucoup d'ailleurs, qu'ils ne peuvent plus rien dire, et qu'on les attaque sitôt qu'ils font une remarque un peu piquante, combien tout cela sont peu attentifs et peu respectueux de la façon dont aujourd'hui accèdent davantage qu'hier à la parole, des gens qu'on n'entendait pas. Je veux dire que dans la demande de respect, il y a quelque chose d'une condescendance et d'une certitude d'être dans son bon droit ou d'être dans son camp, d'être dans le camp de ceux qui ont le droit de parler, en gros, qui me paraît parfois peu satisfaisante, oui.
Et c'est ce que disait Kant. Vous rameniez Luc Ferry à ses lectures. Au lieu de prendre un malin plaisir à dévoiler les fautes d'autrui, afin de s'assurer la réputation d'être bon, ou du moins pas plus mauvais que les autres hommes, c'est un devoir de vertu que de jeter le voile de l'amour des hommes sur les fautes d'autrui, non seulement en adoucissant nos jugements, mais aussi en les taisant. Barbastère.
C'est pas mal comme maxime pratique pour le débat.
C'est pas mal. Merci Mathieu Pott-Bonneville.
Merci Patrick Boucheron.
Matière à penser, Mathieu Pott-Bonneville, Pierre-Henri, Sandrine Chaperon, Catherine Donnet, Anne-Pascale Desvignes, Patrick Boucheron. Demain, nous poursuivons notre histoire de la véhémence en compagnie de Vincent Azoulay. Bonne soirée.